Chères auditrices et chers auditeurs, avant de vous laisser écouter cet épisode, l'équipe Cultura et moi-même tenions à vous informer que la communauté Cultura Créa ferme ses portes fin avril 2024 pour mieux se réinventer plus tard. Nous vous remercions donc très sincèrement pour toutes vos écoutes du podcast, vos retours et votre bienveillance à l'intention des créatifs qui sont passés au micro du podcast. Membres de la communauté et collaboratrices et collaborateurs de Cultura, un grand merci à vous pour cette expertise et cette passion partagée autour du DIY et des beaux-arts. Nous nous sommes régalés. Du côté du podcast, les épisodes restent en ligne, donc vous pouvez continuer d'écouter ou de réécouter les épisodes autant que vous voulez. Je vous invite par exemple à écouter les épisodes autour du macramé, des mangas, de l'argile, des feutres à alcool, de la broderie, du moulage de savon et de bougies, ou encore du tricot. Vous ne devriez donc pas manquer d'inspiration créative pendant les prochains mois. On vous donne évidemment rendez-vous sur cultura.com pour la suite des aventures.
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cultura Créa. Je m'appelle Mélanie Sena et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour parler loisirs créatifs et beaux-arts. Deux fois par mois, je partage avec vous des rencontres avec les équipes de Cultura et avec les membres de la communauté Cultura Créa. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, que vous préfériez créer seul ou en famille, nous vous parlons de tous ces arts créatifs que vous aimez. Aujourd'hui, on va parler couture. L'épisode 5 a fait partie des plus écoutés, donc on continue avec une conversation avec Louise et Valérie. Louise, vous la connaissez peut-être déjà, elle communique sous le pseudo Les Lubies de Louise, sur Instagram, sur son blog, sur YouTube notamment, et elle est prof de couture et autrice. Et Valérie, vous l'avez déjà entendue dans l'épisode 5, elle travaille au siège de Cultura et est complètement fan de couture. Dans cet épisode, on va aller un petit peu plus loin au sujet de la couture. On aborde ensemble plus spécifiquement la couture de vêtements, en partageant avec vous des astuces, des conseils sur l'équipement, et on vous dévoile nos créatrices de patrons préférées. Bonne écoute! Bonjour Louise, bonjour Valérie, je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous couture. Bienvenue sur le podcast Cultura Créa.
Bonjour à vous.
Merci.
Alors, comme je disais, on va parler de couture ensemble. On a déjà discuté avec toi, Valérie, déjà parlé de couture dans l'épisode 5, donc c'était il y a une petite année. On avait vu comment se lancer dans la couture, si vraiment on n'a jamais encore cousu, etc. Et là, aujourd'hui, Louise, on va parler avec toi du niveau un peu avancé. Une fois qu'on a déjà démarré, avec quoi on peut se challenger un petit peu. Donc, je pense qu'on va parler de vêtements, de couture de vêtements. Oh. On va parler aussi peut-être de surjeteuses et d'autres accessoires, d'autres manières d'approfondir un petit peu tout ça au niveau de la couture. Ça vous
tout
va?
Oui, ouais, parfait.
Alors avant de démarrer, Louise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Puis Valérie, c'est pareil, je te laisserai te représenter.
Mais oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Louise. On me connaît probablement sous le pseudo Les Lubies de Louise sur Internet. Je suis prof de couture, créatrice de contenu, auteur également. Et ma mission, comme j'aime le dire, c'est vraiment d'inspirer à coudre et d'aider toutes les personnes qui le souhaitent et qui en ont besoin à coudre et à y arriver.
Super. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais de la couture?
Ça fait très longtemps que je fais de la couture, ça va faire 11 ou 12 ans et c'est exactement le même temps passé sur les réseaux à partager couture parce que j'ai commencé à partager sur le blog avant même de savoir coudre, donc il y a vraiment tout mon parcours sur Internet.
Très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui tu alimentes encore ton blog?
Oui. Je l'alimente encore, je fais partie de celles qui n'ont pas lâché.
C'est ça.
Super.
C'est et tellement
donc,
rare.
J'essaye de publier encore toutes les semaines sur le blog.
Ah ouais, en plus. Ouais. Très bien. Et toi Valérie, est-ce que tu peux nous redire qui tu es, s'il te plaît?
Alors moi déjà, je travaille pour l'enseigne Cultura depuis une quinzaine d'années maintenant. Et avant tout, je suis une jeune femme d'un âge mûr, d'une maman, d'une jeune fille aujourd'hui de 22 ans. Donc il m'a beaucoup inspirée sur mon parcours. J'ai fait une école de couture, j'ai travaillé pour une enseigne de chaussures, mais je suis toujours restée dans le prêt-à-porter. Mon chemin a fait que je n'ai pas pu aller sur l'univers des petites mains pour l'histoire du costume, mais grâce à Cultura, j'ai pu remettre en avant ma passion qui est la couture aussi. Donc j'ai donné 10 ans de cours de couture aux collaborateurs Cultura. J'ai arrêté l'an dernier parce que je me suis rendu compte que je donnais beaucoup et j'aime ça. Mais prendre du temps aussi pour soi est essentiel parce que j'ai besoin aussi de me recentrer sur mon histoire, sur ma vie et de pouvoir aussi avancer dans mes projets perso. Mais je reste toujours présente auprès de mes collègues et partager. C'est une ADN que j'aime beaucoup et transmettre. Et donc, moi, je trouve ça génial, Louise, ton métier. C'est un de mes rêves, mais voilà, avec un boulot à plein temps, effectivement, j'essaye de trouver du temps pour pouvoir aussi créer. Mais 10 000 idées à la minute, c'est plein de choses. Et j'avais également commencé par un blog et après les réseaux sociaux sont arrivés, donc moi je suis l'atelier des fils sur les réseaux Instagram, mais voilà, j'ai abandonné le blog parce qu'aujourd'hui avec le boulot et tous les projets qu'on a en plus avec notre société, j'arrive pas à trouver la deuxième vie.
Je comprends. Moi, j'avais un blog aussi que j'ai pareil. J'ai un peu laissé à l'abandon. Et bon, maintenant, je suis très orientée podcast avec le podcast Femme. Mais oui, ça fait beaucoup de travail. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. T'es bien placée pour le savoir, Louise. Hein, c'est une vraie activité.
Ouais, c'est vrai que ça occupe toutes les journées et un peu des nuits aussi. Mais c'est tellement plaisant et moi, c'est quelque chose qui m'anime depuis de nombreuses années et je suis toujours autant passionnée, donc c'est super.
Ouais, c'est cool. Bon. Alors, comme je disais donc dans l'intro, là, on va être un petit peu dans le niveau avancé, entre guillemets. Avant de lancer l'enregistrement, je vous montrais en plus fièrement que j'ai cousu mes premiers vêtements. Alors, j'avais déjà fait, pour l'épisode 5, j'avais déjà dû coudre des jupes longues, donc c'était assez basique. Mais ça y est, je me suis lancée. Merci. Je suis pas peu fière. On en parlait d'ailleurs de la fierté de porter ce qu'on a fait. Oui. C'est juste génial, quoi.
Ouais, ça n'a pas de prix. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. C'est cette fierté qu'on peut ressentir à avoir sa garde-robe cousue main. Ouais. Ça n'a pas de prix.
Ouais. Alors, j'en suis pas encore à la garde-robe, mais j'ai 3 pulls.
C'est le début d'une garde-robe.
c'est top. Et parfois, moi, on me dit, mais c'est toi qui l'as fait? Oui. Voilà, c'est top. Enfin, les quelques vêtements que j'ai faits, c'est ma fille qui les a récupérés. Donc, ça, je suis encore plus fière. Donc, il faut que je m'en refasse. Mais c'est une fierté. Et puis, c'est vachement sympa de pouvoir personnaliser, avoir des vêtements uniques. C'est ça qui est important.
Et oui, exactement. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans le petit col de mon sweat, donc c'est un sweat en molleton. J'ai rajouté une petite touche. Donc c'est un, comment on pourrait appeler ça? D'ailleurs, c'est un biais. En fait, c'est un morceau de biais que j'utilisais pas en biais et donc que j'ai glissé entre les deux coutures du col et du devant et que j'ai fait pareil au niveau des poignets. Voilà, je me suis amusée en plus à ajouter un petit twist entre guillemets. Avec un petit motif japonisant qui me plaisait bien.
C'est génial. C'est super mignon.
Alors, donc, quand on parle de couture un peu avancée, on pense souvent à la couture de vêtements parce que ça peut faire peur. Bon, enfin, comme ça a été mon cas. Est-ce que, Louise, il y a quand même des gens qui se lancent cash dans la couture de vêtements alors qu'ils n'ont jamais cousu de leur vie? Ça doit exister.
Oui, il y a des personnes qui... En fait, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a les personnes qui vont avoir l'idée, elles vont avoir l'envie, elles se posent pas de questions, elles foncent. Donc, moi, j'en ai connu plusieurs et probablement qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont être dans ce cas-là. Elles se posent pas de questions et elles foncent. Après, il y a d'autres catégories de personnes. Moi, je faisais partie de celles-là et les filles que j'aide font partie de celles-là. Elles ont peur et du coup, elles ont besoin un petit peu qu'on les soutienne, qu'on leur tienne la main pour coudre leurs premiers vêtements. Et c'est ça qui est chouette de nos jours, c'est qu'on a beaucoup de ressources, du coup... pour nous accompagner quand on a un petit peu d'appréhension. Mais oui, tout est possible. Il y a des personnes qui vont acheter une machine et qui vont directement commencer par un vêtement. Ça existe.
Donc voilà, on n'est pas obligé de passer par des accessoires. On peut aussi se lancer directement dans les vêtements.
Ouais.
Alors, de quoi j'ai besoin pour me lancer dans les vêtements? Et on peut peut-être faire le côté je me sens à l'aise ou alors j'ai un peu peur. Et comment je me fais accompagner?
Il faut tout le matériel de couture de base, hein, donc c'est exactement le même que pour les accessoires, la machine à coudre, les épingles, les ciseaux, du matériel de mesure, du matériel pour tracer, etc.
Le tissu,
voilà, et le tissu bien entendu. Ensuite, si on veut vraiment coudre des vêtements avec, il va falloir un patron de couture, du papier pour retracer le patron, et après des merceries, enfin de la mercerie un peu plus spécifique, des zips par exemple invisibles. Des boutons,
des pressions,
voilà, de l'entoilage thermocollant, etc., etc.
Bon, alors, moi, j'ai écarquillé les yeux grands ouverts quand t'as dit zip invisible. Ça, c'est le truc que j'ai pas encore franchi. Le invisible me fait peur. Alors, déjà, en plus, le zip, j'aime pas ça. Généralement,
c'est fou comme ça rebute vachement, la fermeture à glissière. Ouais. Son vrai nom.
Ouais.
Souvent dans mes cours, je ne sais pas ce que tu en penses, Louise, mais mes élèves, moi, je rêve de poser une fermeture à glissière. Waouh. Alors ça, c'est un rêve. Donc c'est génial, on y va. Et une fois qu'on montre, parce qu'il y a un pied spécifique, et la simplicité qu'on y trouve avec des petites astuces à poser cette fermeture à glissière, ça soulage et ça rassure. Et du coup, d'une jupe, d'un pantalon. Alors, les pantalons, c'est un petit peu plus complexe. Mais moi, je pars toujours sur un accessoire pour prendre en main ce mode de pratique.
De fermeture, ouais.
Pour après se mettre sur un vêtement, mais parfois directement sur une jupe. Moi, à l'école de couture, on a appris directement sur une jupe. Et il suffit d'avoir les bons termes et le bon accompagnement.
Oui. Mais moi, ce qui me freine dans les zips, les fermetures à glissière, c'est dans la trousse. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de problème pour la coudre en tant que telle, mais c'est après, tu sais, les deux côtés des trousses, ça fait toujours n'importe quoi, mais parce que j'ai jamais pris le temps de regarder proprement. J'ai une amie avec qui j'en ai déjà posé, effectivement, comme elle m'a accompagnée, ça c'était super bien. Mais quand je le fais toute seule et que j'ai pas envie de regarder des tutos, c'est n'importe quoi. Et parce que c'est comment je gère la fermeture, enfin le début et la fin du zip, et que quand je retourne, etc. Mais bon, donc il y a les fermetures à la glissière qui peuvent être un sujet, mais en même temps, en réalité, effectivement, on peut apprendre, c'est comme tout le reste.
Oui, et puis dans la couture, c'est comme, la couture d'accessoires comme la couture des vêtements, en réalité, c'est simplement une succession de techniques, et les techniques en elles-mêmes, elles sont pas compliquées, en fait. On suit un pas à pas, un protocole, disons, et on fait la première technique, après on passe à la suivante, et au fur et à mesure, on va arriver à coudre des pièces avec beaucoup de techniques, mais c'est pas compliqué en soi, c'est juste une succession de techniques à apprendre, donc ça s'apprend. Avec l'expérience, on arrive de mieux en mieux à le faire, et de façon plus naturelle, plus fluide, etc. Mais c'est comme pour n'importe quel loisir, hein, en réalité. Il y a rien d'insurmontable en couture, et c'est vrai que les vêtements, ça peut faire peur parce que c'est des techniques nouvelles. Tout à l'heure, je parlais de la lingerie, c'est encore une fois des nouvelles techniques à apprendre, et une fois qu'on sait le faire, on sait coudre de la lingerie, tout simplement.
Oui, on peut s'éclater. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à accepter de devoir prendre son temps. Mais c'est ça qui est beau aussi, je trouve, dans la couture, c'est que finalement,
Ah, mais il est essentiel, ce temps.
Ouais, tu y as accordé beaucoup de temps.
Voilà, être en forme, parce que parfois, on est fatigué en fin de journée et par moments, on casse le fil, voilà, ça veut pas. Et comme le dit si bien Louise, faire étape par étape, c'est essentiel. Parce que si on rate certaines étapes, forcément, tu as pas une jolie trousse à la fin.
C'est ça. Mais souvent, je me dis, oh, bah, c'est pas grave, c'est la mienne. c'est pas grave.
Et c'est vrai que apprécier le processus, pour moi, c'est important et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre le plus possible. De nos jours, on voit beaucoup de projets finis et une accumulation de projets finis. Mais faut pas oublier que la couture, il y a tout un processus qui est quand même assez long, surtout pour les vêtements. Et ben c'est à nous d'apprendre à aimer en fait toutes les étapes de la couture, que ce soit recopier son patron, faire des ajustements si on a besoin, couper notre tissu, préparer nos pièces, etc., etc. Et pas être heureuse seulement une fois qu'on a tout terminé, parce que ça dure 3 minutes quoi, ce moment où on fait tadam. C'est vraiment prendre plaisir tout au long, en fait, de la création.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, on a vite envie de coudre et que les étapes précédentes sont longues, comme tu disais. Donc, le principe hein, pour utiliser un patron, c'est... Alors, on va peut-être parler aussi de la différence entre les pochettes et les PDF. Mais donc, j'ai mon patron à plat qui est une grande feuille et je dois décalquer mes pièces sur du papier calque ou du papier craft.
Donc,
papier de soie, ouais.
Déjà, choisir le modèle
et l'inspiration. Voilà. Et le tissu qui va avec, par raison. C'est ça.
Il faut déjà associer le modèle et le tissu. Parce que parfois, moi, mes élèves, elles avaient le tissu en main et du coup, elles ont trouvé un modèle, mais qui n'était pas utilisable. Donc, il faut l'adapter. Et parfois, s'il est indiqué qu'il faut certaines matières, il faut faire attention à ces matières-là. Parce que le rendu ne sera pas le même. Essentiellement en prêt-à-porter. Dans l'accessoire, on peut éventuellement... Oui. Voilà, la trousse...
On s'arrange un peu.
Ouais. Le sac, ouais. Mais dans le prêt-à-porter, c'est essentiel. Déjà, avoir ces idées-là, et du coup, se mettre des paillettes dans la tête, de se dire, ah ouais, là, ça, si j'y arrive, je pourrais d'autant plus le porter. Donc, ouais, c'est une fierté, comme dit Louise, de pouvoir, au fur et à mesure... Enfin, moi, au fur et à mesure de mon projet, déjà, je le rêve, je me l'imagine. Et au fur et à mesure de mes actions, jusqu'à la finition des boutonnières, parfois, je les fais à la main parce que j'ai appris à les faire à la main. Mais je regarde mon poignet, mais je suis trop fière. Donc, c'est top, ces moments-là. Poser une manche sur le droit fil, c'est essentiel. Enfin, il y a plein d'étapes qui sont magiques.
je valide complètement.
Donc on apprécie, il faut savoir apprécier chaque étape. Ça me parle aussi beaucoup parce que dans notre mode de consommation aussi, où effectivement c'est tellement facile d'acheter des vêtements à pas cher, etc., que de prendre le temps de choisir le bon modèle avec le bon tissu, comme tu disais Valérie. Ça déjà effectivement c'est quand même un temps certain. Et après moi j'achète plutôt mes tissus en magasin, mais du coup on est potentiellement aussi un peu limité par le choix en magasin, donc si on trouve pas, il faut aussi peut-être se dire attends, là j'ai pas trouvé le tissu parfait, donc je cherche aussi en ligne pour quand même, enfin pour m'assurer que j'ai trouvé le bon tissu, parce que il y a une fois où j'ai acheté un jacquard pour faire une veste. Et en fait, c'était pas le bon tissu que j'aurais dû prendre. Et évidemment, c'est quand j'avais quasiment terminé que je me suis dit oui, mais en fait non, mais là ça va pas. Enfin, il y avait pas grand chose qui allait. Mais je pense que le nœud du problème, c'était le tissu. Et finalement, j'ai choisi celui-ci parce que ça m'arrangeait de prendre celui-ci à ce moment-là, etc. Parce que je voulais me dépêcher de coudre ma veste. Et j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Sur le moment, j'avais le sentiment de choisir par défaut, mais au final, avec le recul, je me dis, le temps que j'ai investi dans cette veste, finalement, pour pas la porter, parce que, bon, c'est un loupé, quoi.
C'est dommage.
Mais bon.
Le mot dépêché, il faut l'enlever. Enfin, pour la couture, c'est un temps de pause. Moi, mes élèves, on vide le cerveau, enfin, il faut pas se dépêcher en couture, sinon, On rate, oui, on fait des bêtises, voilà. Après, sur les sites, moi, il m'est arrivé, alors j'aime bien aller en boutique, j'aime bien toucher les matières, tout ça. On peut commander les échantillons sur des sites et ils nous livrent des petits échantillons. Comme ça, on peut voir, ma fille, elle voulait un chemisier, donc on a commandé, elle avait vu les imprimés et en fonction de l'imprimé, du tombé de tissu, voilà, on avait réfléchi. Bon, du coup, on a été en magasin pour trouver parce que sur les sites, on n'était pas, ça ne nous convenait pas. Mais ouais, après, moi, je suis pas très site. Je sais pas toi, Louise, si tu commandes.
Alors moi, je commande beaucoup en ligne. C'est vrai que du coup, je suis très site internet. Mais c'est vrai que d'avoir la capacité de visualiser quel sera le tombé d'une matière en ligne, c'est pas évident. Ça demande un petit peu de connaissances en tissu. Voilà, moi j'ai pas cette difficulté parce que j'ai travaillé plusieurs années dans un magasin de tissus, donc je sais très bien les dénominations, à quoi ça correspond, etc. Mais quand on débute, c'est vrai que ça peut, ça pose question et comme on le disait, le choix de la matière va vraiment être déterminant pour le rendu de la cousette, en fait, surtout pour les vêtements. C'est très très important de bien choisir un tissu. Si c'est un patron pour une maille, ben, il faut absolument un tissu extensible. Si c'est un patron chaîne et trame, il faut absolument un tissu non extensible. Et ben, si on inverse, ça va pas être portable, tout simplement. Donc, c'est très dommage. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est mieux quand on débute de se faire conseiller en magasin, d'arriver à trouver des personnes qui peuvent nous aiguiller dans les rayons et ne pas hésiter aussi à aller regarder les étiquettes sur les rouleaux des magasins, aller toucher, prendre des photos, etc., pour apprendre, tout simplement.
Ouais, et en tout cas, en prenant son temps, faisant pas au plus vite.
Et c'est vrai qu'on peut vite avoir un coup de cœur pour un motif et avoir envie de coudre quelque chose, mais il faut bien vérifier que la matière convient au patron qu'on souhaite faire, sinon ça va pas fonctionner.
Ouais. Après, aujourd'hui, on a l'embarras du choix dans les patrons. Quand j'ai commencé à coudre, donc c'était il y a une dizaine d'années, c'était pas comme aujourd'hui, en fait. Là, aujourd'hui, on a... un tel choix, que ce soit finalement dans des marques sur internet ou des marques qui sont aussi distribuées dans les merceries, plus tous les livres. Toi, Louise, donc tes patrons, on les retrouve aussi dans des livres, plus j'imagine sur ton blog. Donc il y a une multitude de sources de patrons. Comment on peut s'y repérer dans tout ça?
Alors si on est un peu sur les réseaux sociaux, on peut suivre différentes créatrices, créateurs ou des personnes qui vont coudre beaucoup. Du coup, on peut flasher, disons, sur des modèles. Après, il existe une ressource en ligne, ça s'appelle Polaris Pattern, qui regroupe en fait tout un tas de patrons, de créateurs, et du coup il y a un système de recherche où on peut indiquer, admettons, vêtements pour femmes, robes avec tel métrage de tissu, et puis ça va faire ressortir des noms de patrons qui correspondent aux critères. Donc ça c'est très pratique. Voilà, après en farfouillant
ouais, j'ai un souvenir concernant des patrons Burda à l'époque, ces fameux patrons où il y avait des couleurs qui partaient dans tous les sens pour toutes les tailles, et encore dans les magasins de tissus, voilà, dernièrement, parce que mon mannequin c'est ma fille, je lui dis regarde un peu ce qu'il y a, et elle me dit mais c'est kitsch ton truc là, c'est
c'est plus adapté.
C'est adapté. Après, effectivement, il y a des super livres de couture aujourd'hui où il y a des ouvrages, même moi, ils remplissent ma bibliothèque parce qu'ils sont beaux. Mais il y a des revues aussi. Il y a la couture facile chez les éditions de Saxe aussi où ils ont quelquefois des petits modèles. Parfois, on cherche un modèle tout simple, un jogging ou un petit haut. Enfin, et même avec tout ce que l'on a aujourd'hui, par moment, moi, j'avoue que je prends du temps parce que j'ai le modèle en tête, Alors oui, je pourrais le créer, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus vite par moment. Et du coup, en feuilletant les ouvrages ou autres, je me mets des post-it un peu partout et je me dis « Ah mais oui, celui-là, pour la prochaine fois, je préfère ça, ça, ça. » Mais ouais, il y a les modèles en ligne et on vend aussi de plus en plus des patrons uniques. Cultura va référencer prochainement des petits patrons uniques où on pourra avoir le modèle en plusieurs tailles aussi que l'on va pouvoir retrouver. Mais il y a tellement de possibilités.
Ouais, c'est fou, hein. C'est marrant qu'il y ait autant de créatrices qui se lancent dans la création de patrons.
Ouais.
Parce que c'est quand même, donc du coup, assez concurrentiel, mais finalement, ça les empêche pas de se lancer, donc il doit y avoir un marché suffisamment important.
Ça doit se compléter les uns aux autres, et puis après, c'est comment est décrit les patrons. Par moment, j'en ai imprimé quelques-uns, les PDF, effectivement, il faut bien les comprendre pour bien les relier. J'avais une élève qui, bon, avait pas relié les bonnes pièces, donc on a dû revoir un petit peu. Mais voilà, c'est des pépites d'or, ouais. Moi, j'en ai. J'arrête de
voilà, j'en acheter.
Parce que ma bibliothèque, elle regorge avec tous mes petits post-it qui débordent parce qu'il y a plein d'idées dedans, mais ouais.
Et là, pour le coup, on peut pas prendre en livre numérique, hein. Ça a pas, enfin, c'est pas pareil. On a besoin du papier, quoi, du livre qu'on veut avoir sous les yeux, etc.
Ah, aujourd'hui, oui, moi, je ne sais pas faire.
Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'ai besoin du papier aussi. Est-ce que vous avez des créatrices chouchous que vous voulez partager avec nous pour les créateurs de patrons?
Moi, j'aime bien utiliser les patrons Majam.
Ah, je connais pas.
Majam, alors c'est anciennement Mounassou.
Ah oui, Mounassou, je connais.
Voilà, alors moi j'aime bien parce que la façon de... le modélisme convient parfaitement à ma morphologie, donc je n'ai pas d'ajustement à faire. Donc ça, c'est très pratique. Et ça me permet aussi d'appuyer, disons, sur ce point. C'est que tu disais qu'il y a beaucoup de créatrices, de patrons, mais chacun va patronner un petit peu différemment. Et du coup, il faut trouver... Quel style en fait ira le mieux à sa morphologie. Moi, je sais qu'il y a certaines créatrices où à chaque fois je dois faire beaucoup de retouches.
D'accord.
Et du coup, ça prend plus de temps, etc. Donc c'est un peu moins agréable, disons. Et certaines autres où je n'ai rien à changer et ça va parfaitement bien. Et ça, c'est pas du tout signe qu'une marque fait du bon travail et l'autre du mauvais travail. Hein, ça n'a rien à voir. C'est juste une façon de créer le vêtement qui ira plus ou moins bien à notre morphologie. Et comme on est toutes différentes, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut toutes trouver quelque chose qui nous ira bien.
Donc, ok.
Voilà. Sinon, moi, je couds beaucoup de Charlotte Jobert en ce moment, ce qui est plutôt de la lingerie. En marque de vêtements. Bon, j'en ai fait tellement que j'ai du mal à citer mes préférés.
Ouais. Et après, tu patronnes aussi. T'as tes propres patrons dans les livres que tu as écrits?
Alors moi, les livres que j'ai écrits, c'est des livres accessoires qui vont être plutôt destinés aux débutants. Donc, il n'y a pas de vêtements dans mes ouvrages, mais par contre, j'ai des cours de couture en ligne où là, il y a deux vêtements.
D'accord.
De quoi faire une première tenue. Après, il n'y a pas la garde-robe complète pour le moment.
Ok.
Ah, du teasing.
Et toi, Valérie, tu as des créatrices ou créateurs de patrons un peu fétiches?
Non, pas particulièrement. Moi, je regarde déjà les premières de couve et quand je suis inspirée, non, j'ai vraiment en tête. J'aime bien les éditions de Saxe, ceux qui font parce qu'ils ont des beaux patrons. Les photos sont bien faites, les modèles sont diversifiés. Non, enfin comme ça en tête. Depuis Burda, non, je me suis très ouverte.
Ok. Alors moi, je vais faire un petit coucou à Pauline Patterns, Estelle, que j'avais reçue dans le podcast féminin, qui est très sympa, qui fait beaucoup, enfin c'est son activité principale et unique, hein, la création de patrons. Il y a aussi Atelier Skamit, La veste que j'avais essayé de coudre, c'était, enfin que j'ai cousue, c'était une Atelier Skamit, mais donc le problème c'était pas le patron, c'était le tissu que j'ai choisi. Il y a l'atelier des gourdes aussi, Anne, oui. Pareil qui est.
Oui, tout à fait.
Et voilà, et donc mon suite c'est un atelier des gourdes. Et donc dans là pour le coup donc c'est sur les livres, sur les patrons sont dans les livres qu'elle a sortis, et puis la Maison Naïve aussi. Qui sont deux filles super sympas, Fanny et Lucille, qui sortent aussi des patrons, mais leur activité principale, c'est l'édition de tissus. Voilà, les patrons que j'aime bien. Il y a Maison Fauve aussi, que j'avais oui. reçu aussi sur le,
ouais,
sur le podcast.
Après, ce voilà. qui est sympa, et ce que j'avais fait faire à mes élèves, c'est d'un patron se l'approprier pour le retravailler, le regraduer, pour pouvoir se faire une petite finition différente, une ouverture au niveau d'une poche. Enfin, il y a aussi ça qui est très sympa quand on pratique un petit peu plus. Et,
oui.
et du coup, ça personnalise le modèle et c'est chouette.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est cool.
On peut s'amuser.
Ouais.
Voilà, on peut s'amuser. C'est le mot, ouais, du, de la vie de Louise aujourd'hui.
Et alors, est-ce que la surjeteuse, c'est indispensable si, par exemple, je veux coudre quand même pas mal de vêtements, si je me lance vraiment et je dis j'achète plus de vêtements dans le commerce, est-ce que je suis obligée d'avoir une surjeteuse ou est-ce que je peux m'en sortir avec ma machine à coudre un peu évoluée?
Alors moi j'ai envie de dire que la surjeteuse elle est pas indispensable dans le sens où parfois ça va être une excuse pour pas faire certaines choses. J'ai pas de surjeteuse donc je ne peux pas faire, donc cette excuse n'est pas valable pour moi. On peut juste faire avec la machine à coudre. On peut coudre des mailles, on peut faire de jolies finitions à la machine, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que la surjeteuse, ça va être facilitateur quand même pour pas mal de choses. Pour faire tout ce qui est finition, tous les surfils, ben le point zigzag, c'est un peu laborieux à la machine. Donc là, on va avoir une finition propre très rapidement. Et pour coudre les mailles, c'est vraiment plus facile avec une surjeteuse. Donc, on va quand même gagner en qualité de couture et en rapidité aussi avec la surjeteuse. Mais en aucun cas, ça doit être une excuse pour pas coudre tout ce qu'on souhaite si on en a.
Je rejoins Louise. Moi, j'ai attendu quelques années avant de m'en acheter une aussi parce que c'est un budget. Quand j'ai démarré dans ma passion de la couture, bon, la machine à coudre était essentielle. Après, j'avais acheté un mannequin parce que dans le prêt-à-porter,
ah oui.
pour moi, le mannequin réglable est important. Et la surjeteuse me faisait de l'œil, mais les budgets sont parfois bon, complexes. Quelle surjeteuse acheter également?
Donc, il faut avoir la place, avoir une deuxième avoir machine.
Voilà, tout à fait.
Okay.
Bon, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un atelier. C'est la chambre d'amis, mais j'ai plus de tissus que d'amis. Non, je suis voilà. mais bonjour.
Moi aussi, mais j'ai pas de chambre d'amis, mais j'ai aussi plus de tissus que d'amis.
Non, non, mais voilà, c'est une pièce qui est prévue qu'à la couture aujourd'hui. Mais la surjeteuse, je suis en phase avec Louise. Quand on y prend goût, ben c'est comme tout. Après, on s'en passe plus. On fait les finitions propres. Ce que j'ai fait découvrir à mes élèves et entre faire le surjet à la machine et le surjet à la surjeteuse, il y a une différence. Après, moi, j'ai fait avec une association, je faisais des robes de mariée et je faisais avec ma machine à coudre et on coupe les petits fils qui débordent et ça le faisait quand même, ouais. Mais il y a tellement de choses à exploiter sur une surjeteuse que il faut vraiment que je prenne du temps aussi. La surjeteuse, il y a une rapidité qui est dingue quand même. Autant à la machine à coudre, bah oui, les surjets vont prendre du temps. La surjeteuse, elle va beaucoup plus vite.
Ouais. Et puis c'est plus, oui, ça fait effectivement plus propre, quoi. Parce que ça coupe en même temps. Donc ça coud et ça coupe
voilà.
le tissu.
Elle rase également, mais elle a plein de fonctionnalités que je n'ai pas pris encore le temps de découvrir. À faire, à suivre. Tu donnes des cours que sur jeteuse, Louise ?
J'ai un cours en ligne spécial sur jeteuse. C'est vraiment un dossier complet sur jeteuse. Et c'est vrai que quand on pense surjeteuse, généralement on visualise le quatre fils. Donc ça va être pour l'assemblage des mailles. Mais on va avoir des pointes sur fil, en trois fils pour surfiler les bords des tissus chaîne et trame. Et après on va avoir plein d'autres points pour faire des finitions de bords. Pour faire des points un petit peu plus fantaisie, etc., sur la surjeteuse. Et ce qui est super intéressant aussi avec cette machine, c'est qu'on va pouvoir faire des réglages par exemple, quand on coud des mailles à la machine à coudre, c'est pas rare d'avoir un tissu qui va s'étirer ou on va avoir une finition qui gondole.
Ah oui.
C'est pas très propre. Et là, la surjeteuse, elle permet de faire des réglages pour limiter justement l'étirement. Ou alors, si on a envie de froncer un petit peu un tissu, on va pouvoir le faire aussi en un seul passage à la surjeteuse. Il y a plein de possibilités avec cette machine et ça demande un petit peu plus de, comment dire, de technique au moment de l'apprentissage parce qu'on
Oui.
a quatre fils et du
Donc il faut
coup,
les enfiler. Et effectivement, il y a l'air d'avoir un sujet au niveau de l'enfilage des.
oui, mais il est tout simple,
Mais
il est tout
ah bon?
simple, ils
Ah,
ont
tu vois,
évolué, ouais.
on se
En
fait
fait,
des montagnes de certains trucs des fois.
c'est vrai que c'est impressionnant, mais
Ouais.
une fois qu'on le fait, on a l'habitude et ça devient très facile. C'est surtout les petits réglages qui vont être un petit peu plus délicats que les points de la machine à coudre. Mais pareil, une fois qu'on a compris, c'est logique.
Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des livrets qui sont mis avec, qu'il faut ouvrir pour prendre le temps voilà, de lire par rapport au projet, au tissu que l'on veut travailler. C'est ce que je dis souvent à mes élèves. Je dis, mais ton petit livret, là, il va pas rester au fond de la boîte. Il est vachement utile. Et moi, je m'entoure des choses où des fois, je le fais pas régulièrement. Voilà, je sais les actions qu'il y a à mener, mais c'est une machine complémentaire et qui, bah, quand on y prend goût, bah, on s'en lasse plus non plus.
Et alors, est-ce que c'est pareil pour la brodeuse? Est-ce
Ah,
que
là, on arrive dans un autre monde.
ah oui, un autre monde et encore un autre budget. Et là, on peut se faire plaisir là.
Alors, moi, si je peux me permettre, j'ai eu la chance d'avoir une formation avec l'équipe de brodeurs. On a chez Cultura la FS100, qui est une machine qui n'est pas une brodeuse, mais qui fait des points décoratifs. Donc, pareil, bon, étant un peu couturière, mais c'est comment l'appréhender, comment la comprendre pour savoir jusqu'où elle est capable d'aller dans les projets. Et il n'y a pas besoin d'avoir un grand, grand budget pour ça. Elle est en complément, mais elle fait des jolis points décoratifs. Elle a plus de 90 points et elle fait des points de lettrage. Bon, même si les points de lettrage sont limités, on peut en complément aussi avoir ce genre de machine. Et d'ailleurs, prochainement, je ferai un petit projet pour Cultura Créa et vous verrez le résultat. J'ai hâte
Super.
parce que voilà, on apprend plein de belles choses. Alors effectivement, une brodeuse, c'est pour moi un autre monde, mais certainement que Louise, tu peux en parler un peu plus. Je
Alors
n'en
moi,
ai pas moi.
je peux pas témoigner non plus. J'ai pas de brodeuse, mais
En
après,
fait, c'est un univers différent de la couture, c'est ça?
voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est complètement différent. Moi, c'est vrai que ma spécialité, c'est la couture des vêtements. Après, bien sûr, avec une brodeuse, on peut personnaliser encore plus son vêtement, mais c'est d'autres techniques. C'est plus décoratif que
Lui que
autre.
fonctionnel et
C'est vraiment
ouais.
complètement autre chose.
Ouais, c'est sûr. Bon, donc c'est pas indispensable de se lancer dans l'achat de la brodeuse, parce que autant finalement la brodeuse est forcément couturière, parce que une brodeuse, enfin si on coud pas, une brodeuse n'a pas d'intérêt. Ou si pour personnaliser des choses qui seraient déjà cousues, ouais.
Si
Vu l'investissement.
pour personnaliser justement des vêtements que l'on achète unis et qu'on a envie d'écrire dessus, faire des dessins dessus,
Oui.
la brodeuse sert à ça en soi, mais si on a envie de se si on souhaite pas se créer de vêtements, oui, mais si on veut se les créer,
Oui, il
voilà.
faut avoir une machine à coudre.
Ouais.
Faut bien réfléchir le budget si on souhaite acheter une brodeuse. Oui, tout à fait. Alors, moi, ça me fait des paillettes dans les yeux parce
Ouais.
que c'est magique. Mais le compromis et ce que nous a présenté aussi notre fournisseur était intéressant. Ça peut être. On avait des collègues qui étaient présents, donc je leur donnais des cours et ouais, ils se sont dit, ah ouais, ça c'est une bonne transition.
Ouais.
Ça peut être sympa.
Mais fait ça. Très
Mais
bien.
ouais, mais après, voilà, c'est encore une machine, encore de la place.
Alors tout à l'heure, j'ai parlé très rapidement du choix des patrons entre la pochette et le PDF. Parce que donc, dans le PDF, donc on achète un fichier qu'il faut imprimer soi-même ou faire imprimer en A0 par un imprimeur local potentiellement ou en ligne. Et la pochette, on reçoit le produit chez nous avec donc déjà le patron imprimé sur un A0. Et donc la différence, c'est que quand on l'imprime chez soi, par exemple sur du A4, sur du papier A4, eh ben il faut tout assembler. Et donc ça fait déjà un sacré boulot avant d'avoir commencé à enfin on en est encore toujours pas à l'étape de la couture quoi, et on a déjà un petit peu sué. Vos conseils par rapport à ça. Est-ce que vous êtes pro pochette ou pro PDF ou en fait ça dépend
Alors moi personnellement j'aime bien les patrons pochettes,
Ouais.
mais ça, enfin, il y a quand même du travail malgré tout parce que le
Oui, bien
patron
sûr.
pochette on va jamais le couper
Ah
directement,
ben,
on va
voilà.
pas couper la planche, on
Ouais.
va devoir le recopier donc dans tous les cas on a un petit peu de travail exactement comme le PDF, mais voilà il va falloir retracer sa taille sur du papier patron. Et après le PDF, comme tu le disais, soit on l'imprime à la maison, il faut découper, scotcher. Et là encore, peut-être qu'on va avoir envie de couper de sa taille dedans directement. Mais si on s'est trompé ou si on doit faire des ajustements, ben on va devoir réimprimer, redécouper,
C'est ça.
rescotcher.
Parce que moi, quand la première fois j'ai acheté un PDF et je me suis dit, bah, je vais couper dedans. Puis après, je dis, bah non, en fait, après le temps que j'ai passé à tout découper, parce qu'il faut enlever les marges des feuilles de chaque côté pour que tout soit bien collé et tout ça. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, il est hors de question, je découpe ma grande planche que je viens de reconstituer comme un puzzle. Finalement, je vais en plus, donc avec mon papier calque, reproduire les pièces à ma taille. Parce qu'effectivement, si on veut le faire dans une autre taille ou comme tu disais, faire des ajustements, bah, après, c'est foutu, quoi.
Oui, il est préférable de quoi que l'on choisisse,
Oui.
il faut prendre ce temps-là et le papier de soie, voilà, est important pour pouvoir reproduire. Mais j'ai déjà eu quelques élèves qui avaient carrément coupé la taille et qui se sont rendu compte que c'était pas la bonne taille aussi. Donc là, voilà, il faut.
Dommage.
Donc, conseil, vaut mieux garder la base et après on
Oui.
peut travailler dessus, voilà, en fonction du projet, ouais, et de sa taille.
Et moi, je préfère aussi les patrons pochettes parce que du coup, on a la planche, on est sûr qu'il n'y a pas de souci au niveau du format. Par rapport au PDF, quand on imprime, il faut bien vérifier le carré test pour vérifier que notre impression a été faite à la bonne taille. Et des fois, quand enfin, si le papier est mal positionné, on peut avoir des décalages.
Ah oui.
Et ça arrive quand même assez régulièrement que ben, ça coïncide pas pile poil en fait les papiers A4 et que du coup on a des décalages au niveau de certaines pièces. Et alors moi personnellement ça a tendance à m'agacer quand ça
Je
arrive.
comprends. Non, je
Et
comprends pas.
ça met le doute aussi à savoir ben, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est pour ça que moi je préfère avoir la planche. Et le A0 avec les possibilités d'impression maintenant qu'on peut avoir en ligne ou alors chez des imprimeurs, c'est une bonne solution quand les patrons ne sont pas dispo en pochette.
En pochette, ouais. Ça marche. Et puis l'avantage aussi du PDF, quand même, parce qu'il y en a aussi, il y a aussi des avantages, c'est que tu peux, enfin, je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas certains proposent avec des calques. Donc tu ne coches, tu n'affiches et tu n'imprimes que ta taille à toi. Donc ce qui fait que c'est déjà beaucoup plus simple parce que des fois, c'est un peu complexe quand même de se repérer à travers toutes les lignes et les différents types de pointillés pour trouver ta bonne taille et de suivre la bonne ligne pendant tout le tracé. C'est pas évident.
Moi, je trouve que c'est un joli défi visuel, ça.
Ça, c'est certain. Et il faut pas faire ça à 23 heures quand il fait nuit, qu'on
doit avoir une bonne lumière aussi, ouais. Mais sinon, la forme du short peut devenir un peu pantalon sur le revers. Enfin, c'est assez drôle des fois. Oui, tout à fait.
Cette phase de préparation, elle est hyper importante. Parce que moi, je me suis souvent rendu compte qu'en fait, d'avoir mal coupé au départ, bah, ça mettait le projet en péril grave, quoi.
Et de bien positionner tous les repères qu'il y a pour...
Ah oui, ça, je le fais pas.
Loge, ceinture, enfin, il faut... tout reprendre, il faut tout. Ouais. Et ce que je conseille, moi, c'est de le visualiser déjà avant de mettre le papier de soie dessus, de se le repérer, repérer la taille, repérer toutes les marques qu'il y a sur le patron pour identifier tout ce qu'on a à transférer.
Exactement.
Parce qu'une fois qu'on est en cours de couture, alors le repère de la poche, il est où ? Habillé pas.
Moi, je fais ça, je les mets pas.
Quand il n'y aura pas de poche, ça sera aussi bien.
De toute façon, à quoi ça sert des poches?
Parfois, c'est utile.
Et alors, est-ce qu'il y a des petits accessoires qui vous semblent indispensables quand on, justement, quand on s'est dit, bon, bah, ok, là, j'adore la couture, j'investis un peu plus dans peut-être la manière dont je suis équipée. Quels sont les accessoires qui vous paraissent importants? Je vous ai scotché.
Je voulais te laisser parler, Louise. Quand on est dans le prêt-à-porter, la règle perroquet est essentielle quand on transfère des patrons. Les finitions et les tracés sont importants. Il faut la règle perroquet, c'est une règle qui aurait une forme de perroquet
courbe, qui a des rondeurs,
qui a des courbes. On en retrouve de plusieurs formes. Alors, c'est le nom que j'ai là, mais il y a d'autres noms aussi. Ça, c'est essentiel. Le mètre ruban, ça, on n'oublie pas. Des ciseaux pour couper le papier, des ciseaux pour couper le tissu. Et j'ai envie de dire le mannequin, pour moi.
Ouais, le mannequin aussi.
Moi, je trouve qu'il...
Ouais. Alors, moi, je n'utilise pas de mannequin, par exemple, pour les vêtements. Alors, le mannequin, il faut trouver un mannequin qui corresponde à sa morphologie. Et c'est ça le défi, un petit peu, quand on n'est pas dans les standards.
Moi, je ne le suis pas, mais je le règle. Et j'ai trouvé, je sais comment... Enfin, il est prêt à ma taille et je sais l'utiliser.
Et après, en couture pour les vêtements, il y a plein de petits accessoires qui vont faciliter la couture. Après, c'est pas des indispensables dans le sens où si on les a pas, on peut pas coudre. Mais on va avoir des retourne-colle, des jauges pour mesurer les ourlets, par exemple.
Ah oui. Une espèce de petite truc accordéon aussi qui se déplie pour faire les boutonnières.
Exactement.
Pour que ce soit toujours les mêmes distances entre chaque truc. C'est super ça. J'aime bien le regarder.
Voilà, il y a des guides de passe pour retourner des bretelles des choses plus fines. Il existe énormément de petits gadgets couture, disons, en mercerie. Vous devez probablement mieux le savoir que moi-même. Ouais. C'est pas des indispensables, mais par contre, ça facilite la couture et ça, c'est plus agréable du coup.
Donc, on peut s'équiper.
On peut s'équiper au fur et à mesure du temps. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite. Ça peut faire l'objet...
Des petits cadeaux.
Des petits cadeaux, exactement.
Oui, c'est comme dans tout. Ils sont très, très forts dans ces milieux-là, puisqu'ils nous font
c'est clair.
Sur le petit support où on met les épingles, ben, en bois, et comme ça, on le secoue, et les épingles se mettent tout dans le même sens. Les épingles à tête, il y en a de très, très fines pour le prêt-à-porter quand on doit travailler les épaulettes pour passer sous la machine aussi. Mais, enfin, ouais, il y a plein de choses, mais après, comme dit Louise, c'est pas forcément indispensable. Après, si Mélanie t'a mis à la petite réglette pour faire les boutonnières, pourquoi pas. Moi, je l'utilise pas. Mon mètre ruban et mon crayon me suffisent. Mais voilà, après, ça rassure aussi. Donc,
ouais. Ah, moi, je fais pas de boutonnière. C'est le genre de truc qui me... C'est comme le zip.
Mais même parfois, je suis surprise. Je me dis, ah ouais, ils ont créé cet outil-là. Ah non, mais c'est dingue.
Voilà, moi, je l'aime bien, cet outil, parce que comme je dois toujours faire des ajustements sur mes vêtements, du coup, ça évite de devoir faire les calculs et de devoir recalculer les espacements entre les boutonnières. Là, hop, on tire notre règle et ça le fait tout seul. Donc, c'est un côté quand même très pratique.
C'est souvent ce que tu disais. Il n'y a rien d'indispensable, de complètement indispensable, mais c'est des choses qui facilitent le travail.
Voilà.
Ok, bon bah parfait. On a fait un tour assez complet, il me semble. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, dont on a oublié de parler?
La transformation des vêtements, ça peut être quelque chose de très sympa aussi, de pouvoir ressortir de son vestiaire certains vêtements, de pouvoir les démonter un petit peu pour pouvoir les transformer, se les ajuster. Là, j'ai une robe portefeuille actuellement. Je vais, c'est des pièces faciles à défaire. Je vais la transformer en chemisier. Je me suis dit, je vais lui donner une nouvelle vie.
Excellent.
Génial.
Voilà. Je suis un peu dans ce concept-là maintenant de faire attention. Oui, tout à fait, de faire attention à ce que je consomme. Et je trouve que ça complète la couture et tiens, ben on peut donner des deuxièmes vies à nos projets. Bon, j'avoue, j'ai des copines qui viennent souvent me voir en me disant, bon, ça j'y tiens beaucoup. Est-ce que tu peux m'apporter un petit changement, ou c'était à ma sœur et je l'ai récupéré, et qu'est-ce que tu pourrais m'en faire? Et moi, j'adore ces défis-là parce que ça occupe mes nuits.
Carrément. Voilà, et donc c'est un peu plus évolué que le jean qu'on a coupé pour faire un short, qui est déjà la base qu'on peut faire. Et toi, Louise, c'est pareil, t'aimes bien ce côté un peu upcycling?
Alors moi, je suis moins dans l'upcycling. Moi, je suis plutôt très attachée à pouvoir créer des vêtements qui nous ressemblent à 100% et d'avoir vraiment une garde-robe sur mesure. Donc moi, je suis plutôt dans la démarche de savoir quelles sont les coupes qui m'iront le mieux, comment créer une garde-robe capsule avec des pièces qui vont ensemble et qui vont pouvoir s'associer facilement, d'avoir du confort, des choses qui me vont, etc. Donc moi, je suis plutôt dans cette démarche-là avec la couture, puisque je n'achète plus du tout de vêtements depuis plusieurs années. Donc je crée en fait mon univers grâce à la couture, et c'est ça qui me plaît.
Et ben oui.
Jusqu'à la lingerie et les maillots de bain. Non mais c'est un truc de dingue.
Ouais. La lingerie, c'est pareil, c'est le genre de truc où tu dis c'est trop compliqué. Et en fait non, c'est comme le reste.
C'est comme tout, ça s'apprend, et au fur et à mesure, c'est ça qui est chouette aussi avec la couture, c'est de se lancer des défis. Et au-delà de l'aspect créatif, qui est déjà vraiment chouette de passer un moment dans sa bulle à créer, il y a aussi apprivoiser son corps, se regarder pour savoir qu'est-ce qui nous va, comment on peut se sentir bien, se mettre en valeur. Vraiment, c'est... enfin. Moi, je suis un peu dans une démarche qui est au-delà de la couture, qui est presque du développement personnel en réalité. C'est avoir un regard bienveillant sur soi-même et se sentir bien tout simplement dans notre vie de manière générale, dans notre corps. Donc la couture, c'est vraiment une ressource extraordinaire pour ça, parce que on peut vraiment créer des vêtements qui nous vont
et qui nous ressemblent.
Voilà, qui nous ressemblent, peu importe quelles sont nos mensurations, notre morphologie, notre style, on fait exactement ce qu'on veut. Ma phrase préférée que j'aime dire, c'est « ce n'est pas nous qui devons nous adapter aux vêtements, c'est le vêtement qui doit s'adapter à nous ». Et on peut le faire grâce à la couture. Ça, c'est chouette.
Oui, parce que dans les rayons des magasins, ça marche pas vraiment toujours.
Ouais, c'est ça dépend de comment on est, mais moi c'était un gros problème et je suis petite et je n'ai pas une morphologie dans les standards du prêt-à-porter et du coup la couture ça m'a vraiment aidée à me sentir mieux, donc c'est ce que je partage avec cœur.
Mais je te rejoins, Louise, c'est vrai que le prêt-à-porter est ouvert à tous, mais moi, je suis pas très grande non plus, donc il y a toujours des retouches à y faire. Alors, à un moment donné, c'est se dire, bon, si je l'achète, que je dois retoucher parce que mes manches sont trop longues ou parce que je suis serrée au niveau de la poitrine ou c'est, enfin, à un moment, oui, autant se faire les vêtements. Après, c'est prendre le temps pour se les vêtements. C'est moi, je suis en admiration quand je vois ces couturières qui arrive à gérer ce temps-là et il faut c'est important pour le cerveau de pouvoir se poser. Ouais, la couture, c'est, oui, je te rejoins, Louis, c'est un épanouissement perpétuel de se retrouver aussi.
C'est clair. Et ben je vous propose de finir là-dessus. C'était parfait. J'ai qu'une envie, c'est d'aller coudre, mais j'ai 2-3 choses à faire avant.
Moi je vais y aller.
Tu vas aller coudre. Oh, ben, parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve sur Instagram toutes les deux. Alors sur Cultura Créa, évidemment. Valérie, tu as déjà un compte ?
Oui, c'est Valou Cultura.
Valou Cultura.
Le pseudo de mes collègues.
Et toi, Louise, tu vas nous poster aussi des petites choses sur Cultura Créa ?
Oui, j'ai un compte aussi, Les Lubies de Louise, tout simplement.
Parfait. Et donc la même chose sur Instagram. J'ai commencé par Instagram, mais en fait, après, je parlais de Cultura Créa. Mais donc, Les Lubies de Louise aussi, sur YouTube aussi.
Alors, partout, c'est le même pseudo, donc c'est super facile. Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest,
les livres.
Site internet. Les Parfait. Livres, du coup, ce sera mon nom, Louise Scherz, mais je pense...
Impeccable. Que... Oui, on doit pouvoir retrouver tes livres.
Oui.
Passe-moi Instagram, l'atelier défile.
Parfait. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt.
Merci.
À bientôt.
Me revoici. Alors, ça y est, vous avez sorti la machine à coudre ? Dans la liste des créatrices de patrons, j'ai omis de mentionner la marque lyonnaise Joli Lab. Il y a un éventail très très riche de patrons et mon troisième sweat cousu main est d'ailleurs le modèle Malo de Joli Lab. On a beaucoup parlé des valeurs liées à la couture, à ce plaisir de faire soi-même, de prendre le temps, même si des fois on aimerait que ça aille plus vite. Est-ce que vous vous retrouvez aussi dans ces valeurs dont parlaient aussi Valérie et Louise ? Ça m'intéresse de savoir, donc n'hésitez pas à réagir à l'épisode et à poster vos cousettes sur culturacrea.fr. Il y a un vrai esprit de communauté et de bienveillance, c'est très agréable. Si cet épisode vous a plu, je vous recommande d'écouter l'épisode 5 si c'est pas encore fait. Et je vous invite chaleureusement à prendre quelques instants pour aller sur votre appli de podcast, comme Apple Podcasts ou Spotify, pour noter le podcast et nous aider à le diffuser. Et bien sûr, n'hésitez pas à le partager autour de vous, dans votre cercle créatif et sur Instagram par exemple. De mon côté, je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour la suite de nos découvertes créatives. À bientôt !